Bienvenue à l'épisode 26 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous discutons de Jobs to be Done, ce que c'est, son utilité ainsi que les pièges à éviter. Bonjour Jean-François, bonjour Véronica.
Bonjour Véronica, bonjour Éric.
Bonjour Éric, bonjour Jean-François.
Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos auditeurs qui nous font confiance et qui nous écoutent semaine après semaine. N'hésitez pas à soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme préférée et à y ajouter vos commentaires et évaluations. Cela nous aide énormément et c'est surtout très apprécié. Donc aujourd'hui, on parle de jobs to be done. On parle de qu'est-ce que c'est et les enjeux qui en découlent et surtout les opportunités qui y sont associées. Donc, qu'est-ce que c'est un « jobs to be done » ? La notion de « jobs to be done » est très associée à la théorie de l'innovation. Et au lieu de définir un segment client en termes de facteurs psychosociaux ou de caractéristiques démographiques, les « jobs to be done » focalisent sur les tâches et les besoins spécifiques. Selon Christensen, qui est la référence en termes de la théorie de l'innovation, il définit, et je prends sa définition de façon plus succincte, il définit le « jobs to be done » comme une circonstance dans laquelle un individu essaie de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Évidemment, il va un peu plus loin quand il explique quelles sont les circonstances dans lesquelles un produit va réussir et un produit ne réussira pas. Et c'est tout associé à la notion de est-ce que on a un besoin ou une tâche à accomplir. Et ce concept-là va nous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner les besoins des clients parce qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'ils essaient de faire, qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir, qu'est-ce qu'ils ressentent. À la limite, on va pouvoir explorer de façon plus détaillée. Et là, ça ouvre la porte à un peu un retour sur l'épisode 17 avec Philippe Lohan, quand on parlait de comprendre les comportements des clients, comprendre leur routine, comprendre leurs habitudes. Donc, comprendre ce qu'ils essaient de faire.
Je vais concrétiser ça d'une manière peut-être un petit peu plus dans le langage vernaculaire avec deux exemples. Le premier exemple, c'est l'entreprise, c'est vernaculaire, hein, c'est ça, oui. Bon, je reviendrai sur vernaculaire plus tard. Mais cette question-là, c'est la première question, c'est les entreprises ont besoin de payer leurs fournisseurs. Donc, c'est un « job to be done » entre guillemets par excellence. Toutes les entreprises ont besoin de payer leurs fournisseurs. Il y a différentes façons de le faire. Il y a différentes façons d'améliorer la performance de la façon dont nous faisons ça. Mais grosso modo, la job to be done, c'est il faut payer nos fournisseurs. Donc, quand on parle d'innovation, on peut proposer des nouvelles solutions à des entreprises pour les aider à payer mieux, à payer pour moins cher le paiement de facture, ainsi de suite. Le deuxième exemple que je veux donner, parce que j'ai travaillé avec une petite entreprise ici en France qui s'appelle Iconem, c'est, je prends une entreprise dans le secteur de l'énergie qui doit inspecter des lignes de transmission à haute tension périodiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages, tout va bien, la végétation ne pousse pas trop haut, ainsi de suite, il n'y a pas eu de vandalisme, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise-là louait les services d'une compagnie d'hélicoptères ou une compagnie d'avions et puis filmait ou examinait avec leurs employés et des longues vues tout le tracé. Une entreprise arrive, je vous montre que je peux faire cette tâche-là, réaliser cette tâche-là, donc réaliser la job to be done, d'une manière beaucoup moins coûteuse et par là même, probablement, l'automatiser et la rendre beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse pour vous, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente aussi. Donc, c'est souvent le client lui-même n'est pas au courant, et c'est là où je voulais en venir en réalité, qu'il y a des nouvelles façons de faire la fameuse job qui le confronte régulièrement, périodiquement, voire même tous les jours. Voilà, c'est le petit point que je voulais rajouter ou concrétiser pour tout le monde ici.
Donc, excellent. Quand on parle de job to be done, je pense qu'il faut faire la différence entre qu'est-ce qu'on veut accomplir et le moyen qui est offert pour pouvoir l'accomplir. Et ça rouvre la discussion sur son utilité. Discutons de l'utilité du job to be done. On sait qu'il y a un élément qui est important, c'est la notion de job to be done va nous permettre de définir une proposition de valeur et d'en assurer son alignement. L'alignement avec quoi? Bien évidemment, avec les besoins du client. Donc, il y a un lien entre ce que l'entreprise veut définir comme proposition de valeur et justement les besoins exprimés des job to be done du client. Pour créer cette valeur-là, donc, il faut focaliser sur le consommateur, le client, surtout comprendre ce qu'il essaie d'accomplir. Mais ça va un petit peu plus loin que les simples jobs to be done. Faut observer les comportements, les frustrations, les éléments qui procurent de la satisfaction aussi.
Exact.
Donc, on va parler des needs, les besoins, on va parler de pains, on va parler de gains. Et examinons ces trois éléments-là rapidement. Les jobs to be done, ben, il y a différents niveaux aux besoins. Il y a des besoins fonctionnels. Donc, par exemple, si je parle d'une automobile, j'ai le besoin de me déplacer. Mais je peux avoir des besoins qui sont sociaux, un besoin social, le besoin de statut. Donc, évidemment, si je reste dans le domaine de l'automobile, le statut conféré par une voiture de luxe n'est pas le même qu'une voiture grand public, si je peux dire. Mais tous les deux me servent à me déplacer.
Tout à fait.
Et il y aurait aussi des besoins de type personnel ou émotionnel, de type j'ai besoin de sécurité. Donc, je vais peut-être m'acheter un Cybertruck parce que c'est un véhicule qui me permet d'avoir beaucoup plus de sécurité qu'un F-150. Je sors un peu cet exemple-là. Mais la sécurité est un besoin qui existe et peut, dans le domaine d'automobile, si je reste dans la même thématique, ça amène différentes combinaisons possibles pour exprimer le besoin par un job to be done. Maintenant, j'ai parlé de gains. Les gains, c'est les résultats et les bénéfices que je recherche. Ces bénéfices-là peuvent être directs ou indirects, mais c'est la plus-value que l'expression de mon besoin m'apporte comme individu. Il y a les pains. Les pains, c'est ce que j'essaie d'éviter. Donc, ce qui empêche l'accomplissement des jobs, ce qui les empêche, c'est des frustrations, c'est des conséquences négatives, ça peut être des risques, mais c'est aussi ce que les clients veulent éviter. Donc, quand on parle de job to be done, il y a un ensemble de facteurs qui doivent être considérés et ces ensembles-là de facteurs vont nous permettre d'aller chercher une proposition de valeur qui va aller faire un fit avec ces éléments-là. Plus le fit est intéressant et présent, plus j'ai de chances d'offrir un produit ou un moyen de résoudre le problème de façon gagnante. Donc, évidemment, pour me rendre à cette étape-là, il faut réfléchir au processus d'observation, à la documentation des besoins de mes clients. Donc, évidemment, ça se fait pas entre quatre murs. Et le credo de Steve Blank, c'est « get out of the building ». Ça doit se faire sur le terrain. On doit aller chercher des données factuelles,
ouais.
Des comportements des consommateurs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Et souvent, on va utiliser une carte d'empathie pour pouvoir documenter le tout. On va documenter ce que notre client, notre consommateur type voit, pense, ressent, fait, essaie d'accomplir. Et c'est comme ça qu'on va documenter tranquillement les jobs to be done.
J'aime beaucoup cette carte d'empathie-là parce que moi, je suis quelqu'un de rationnel. Donc, quand tu dis cette question-là de besoin de prestige ou de sécurité ou de ci ou de ça, peut-être que je l'ai, mais je n'en suis même pas conscient. Donc, ça, c'est peut-être un autre problème que j'ai. Là. Les psychologues dans notre auditoire voudront peut-être me diagnostiquer avec quelques troubles de la personnalité quelconque. Mais quand tu dis empathie, c'est exactement ça. C'est essayer de voir qu'est-ce que les gens vivent, soit dans le processus d'achat, soit en utilisant le bien ou le service qui entre guillemets fait le job, fait le job to be done. Véronica.
En fait, moi, il y a deux éléments qui m'accrochent un peu qui m'attirent dans ce que tu viens de définir, Eric, en lien avec la méthodologie de gestion lean. Donc, quand on fait du Lean et même du Six Sigma, on va souvent parler de « voice of the customer », la voix du client. Donc, oui, on veut améliorer notre processus pour réduire son coût d'opération ou X raisons. Souvent, malheureusement, c'est souvent associé qu'à la réduction de coût. Mais on tient toujours en considération la voix du client, à savoir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'eux, ils recherchent dans ce processus-là ou dans ce produit ou service qu'ils reçoivent pour s'assurer qu'on ne fait pas des changements dans nos processus internes qui vont affecter négativement notre client. Donc, ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième, quand tu parles de Steve Blank puis qui dit « get out of the building », moi, ça me ramène à la fameuse marche Gemba du Lean où on va dire à nos gestionnaires, à nos superviseurs, à nos dirigeants, de sortir de leur bureau et voir d'aller voir sur le terrain, aller voir sur le plancher où on est, où la valeur est vraiment créée, aller voir là qu'est-ce qui se passe auprès des gens qui sont le plus près de la clientèle qu'on dessert. Exact. Donc, c'est deux éléments qui, je pense, font référence aux jobs to be done, aux needs, aux pains, aux gains, sans nécessairement les aborder de cette manière-là dans la méthodologie Lean Six Sigma. Mais c'est des similitudes assez importantes.
Et je fais le lien avec la discussion qu'on avait avec Philippe Lohan. Je donnais l'exemple de Febreze. Je renote cet exemple-là parce qu'il est pertinent à la discussion qu'on a. Parce que c'est un exemple qui est documenté en long et en large dans le livre de Charles Duhigg, The Power of Habit. Mais c'était la notion de quand je pense que c'est Procter & Gamble qui fabrique le Febreze. Ils avaient découvert la molécule. La molécule était d'une efficacité incroyable. Cependant, ils n'arrivaient pas à faire mousser les ventes du produit parce que à la maison, les gens qui l'utilisaient, ça sentait rien. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les habitudes des utilisateurs, c'était la notion de utiliser le produit, mais quand on faisait le ménage, il fallait que ça sente bon. Et quand ils ont découvert la notion de satisfaction personnelle que la personne, l'homme ou la femme qui fait le ménage, il faut que ça sente bon, on a rajouté de la senteur dans le Febreze. Alors, c'est un peu ironique parce que c'est un produit qui enlève les odeurs, mais on rajoute une odeur, mais on enlève les mauvaises, on en rajoute une bonne. Mais c'était que finalement, c'était la satisfaction, le sentiment du devoir accompli. J'ai créé une maison propre. Et Philippe parlait aussi de d'autres exemples par rapport aux détergents, par rapport à la quantité de détergents qu'on utilisait. Donc, on pouvait développer des nouveaux produits plus environnementaux, plus positifs pour l'environnement, qui consommaient moins, qui avaient un effet moins néfaste sur la décharge d'eau une fois que c'est lavé, sur la quantité utilisée, de produits. Mais finalement, ça avait un effet négatif parce que dans certains pays, la quantité de détergent, si Philippe le disait de cette façon-là, c'est l'amour qu'on donne à notre famille. C'est plus on en met, plus on prouve qu'on prend soin de nos pères. Donc, ça avait un effet négatif. Donc, c'est la notion de job to be done, c'est pas juste le besoin fonctionnel, par exemple, de faire le ménage ou de faire le lavage. C'est aussi le sentiment qu'on en retire. Donc, il y a différents niveaux qui sont importants de comprendre quand on aborde cette question-là. Et plus on est en mesure de l'explorer, plus on est en mesure d'aller chercher un potentiel de valeur pour nos clients. Oui, Véronica.
Bien, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, par contre, c'est qu'une entreprise qui a une empreinte globale, qui se situe dans différents continents, différents pays, les jobs to be done qui vont regarder en Amérique du Nord et les jobs to be done qui vont regarder, exemple, en Asie, les éléments qui vont rentrer dans l'équation ne seront pas nécessairement les mêmes, même si on regarde exactement le même produit, la même entreprise, le même type de consommateur. Donc, le jobs to be done, est-ce qu'il est vraiment sectionné par territoire selon le type de produit ou le service qu'on va regarder?
Mais il va être surtout contextualisé. Okay. Dans ce cas-ci, le segment client, il y a un contexte qui est important. Dans l'exemple qu'on vient de donner, dans d'autres, peut-être qu'il l'est un petit peu moins, selon la notion géographique, mais ça sera peut-être d'autres facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Mais c'est important de garder en tête que la notion de jobs to be done doit être contextualisée. Notre segment client doit être très, très, très bien défini. Et je vais rentrer dans une démarche là, par rapport à ça juste avant. Je te laisse ta place, Jean-François.
Oui, pour revenir je parle à Véronica, pour revenir avec cet exemple de Febreze, qui est en réalité un excellent exemple. L'entreprise arrive et met sur le marché un produit qui est excellent pour le job to be done, mais qui néglige gains and pains. Donc, autrement dit, j'ai un chien, mon mari est fumeur, ma conjointe est fumeuse, enfin, peu importe. J'ai besoin de désodoriser les tissus dans le salon ou dans une pièce quelconque, mais personne ne le remarque, hein, donc pains. Ou gains, ça sent pas meilleur vraiment qu'avant, ça sent juste rien. En rajoutant un peu de parfum, soit qu'on adresse en réalité ces deux questions-là. Le gain, c'est, comme tu disais tout à l'heure, Eric, un sentiment de réalisation. J'ai fait quelque chose, j'ai remplacé une odeur de tabac froid par une odeur de parfum léger, la lavande, tiens, par exemple, ou la vanille pour d'autres, whatever. Et en même temps, quand mon conjoint ou ma conjointe revient à la maison, Il rentre dans la maison et c'est parfumé. Ah, chérie, tu as fait le ménage. Magnifique, c'est extraordinaire. Donc, on a complété le fameux job to be done en rajoutant gains and pains. Et le tour est joué. Et c'est ce qui a propulsé Febreze dans le succès que l'on connaît. Donc, c'était une façon d'illustrer exactement ce dont on vient de parler en faisant rappel au cas de notre ami Philippe.
Et sans rentrer dans trop de détails, mais ce que vous venez de décrire les deux me fait penser au modèle de canot qu'on apprend quand on fait du Six Sigma et un peu du Lean. Mais j'y reviendrai. Je pense que c'est la deuxième fois que je le mentionne. Fait que,
effectivement.
Ça deviendrait peut-être un sujet de podcast
et
futur.
Voilà, tu as trouvé ton Nokia.
Donc, je voudrais ramener notre discussion sur le côté Osterwalder et Pignard dans leur livre, notamment Value Proposition Design, qu'ils articulent très bien en termes de démarche pour pouvoir définir une proposition de valeur alignée sur les jobs to be done. Et il y a 5 étapes. En fait, ce qu'ils proposent, c'est de 1, sélectionner le segment client visé. Donc, la notion de contextualisation qu'on parlait tantôt, Véronica, est très importante. Sélectionner ou identifier du moins, je ne dis pas sélectionner, mais plutôt identifier les jobs to be done. Et on parlait tantôt de carte d'empathie, qui est une façon d'aller documenter. Et il y a différentes façons. Là. On peut aller chercher de l'information de différents moyens. On peut travailler, ce qu'on appelle souvent avoir des lunettes ethnologiques ou anthropologiques, de suivre notre client ou à la limite de voir les comportements qu'il a dans différentes sphères. Ça nous permet, entre autres, d'identifier les pains, identifier les gains. Mais ce que je pense que ce qui est surtout important, c'est de prioriser les jobs, prioriser les pains et prioriser les gains. Évidemment, c'est pas tout ce qu'on voit et qu'on documente sur lesquels on doit viser, mais ça va nous permettre de réfléchir comment notre proposition de valeur va pouvoir adresser ces différents points-là et peut-être dans une certaine mesure, de voir comment qu'on peut le faire de façon différente de notre compétition. Jean-François?
Ouais, et là, typiquement, je veux faire l'écho avec la campagne de vaccination. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que tel groupe ou tel segment est moins vacciné ou est plus vacciné. Et justement, ces questions-là où, est-ce qu'on a adapté notre proposition de valeur aux personnes très âgées, aux handicapés, aux sourds, aux aveugles, ainsi de suite, à tous les cas de figure qu'on retrouve dans la société, peu importe leur proportion, et s'apercevoir qu'effectivement, et ce que tu dis nous amène à segmenter notre marché visé ou le marché mm-hmm. cible d'une manière peut-être différente de par âge, par revenu, par sexe, par religion, les grandes façons de segmenter habituelles ou bien au niveau technologique, les early adopters, etc. Vous les connaissez tout aussi bien que moi. Ce que je trouve que Osterwalder et Pignard font extraordinairement bien, et je ne dirai jamais assez de bien de ces livres-là, c'est ça permet à l'entrepreneur ou à l'innovateur ou au dirigeant de rendre objectif, entre guillemets, une idée et de trouver un pathway ou un chemin pour amener l'idée au marché sans se laisser dominer par l'émotion ou au contraire en acceptant aussi de voir l'émotion que vit, donc d'entrer en empathie avec nos segments visés. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes jeunes entrepreneurs ou mes entrepreneurs de première fois pour valider leur concept et de leur dire de se détacher émotionnellement du concept parce que ce n'est peut-être pas votre idée mais une variante de cette idée-là qui va réussir et ça c'est on revient encore à l'humain et à ses sentiments et à ce sentiment d'appartenance. C'est cette idée-là que je veux amener au marché. Le marché n'est peut-être pas prêt ou n'a peut-être pas besoin de ça exactement comme ça, mais dans ton idée, il y a peut-être quelque chose autour duquel on va broder soit une façon d'éviter des pains différentes, soit de trouver des gains différents, ou au contraire, peut-être travailler sur la jobs en quelque part. C'est pas tout à fait cette job-là qu'il y a à faire, mais celle d'avant ou celle d'après ou celle d'à côté.
Parce que tu présentes, Jean-François, ça m'amène à vraiment à focaliser sur la notion de plus notre proposition de valeur est alignée sur les pains and gains, ceux qu'on choisit ou ceux qu'on découvre, comment qu'on peut les exploiter, plus on est en mesure de définir une proposition de valeur gagnante.
Exact.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une validation qui existe aussi en arrière. Donc, bon, évidemment, dans le domaine des startups, c'est un langage qui est souvent utilisé. Dans le domaine où est-ce qu'il y a des offres ou des entreprises plus matures, on en parle peut-être un peu moins de cette façon-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que d'abord, sur papier, est-ce qu'on a un fit entre le problème et la solution qu'on propose, donc entre la proposition de valeur et le problème, le jobs to be done qu'on veut répondre.
Et ça, avant d'amener le minimum viable product au marché.
Exactement. Et là, ça nous amène dans un deuxième temps où est-ce que là, on va commencer à tester l'offre ou le produit dans une version très alpha, on n'est même pas dans le bêta, dans un minimum viable product, c'est est-ce qu'on a un product market fit? Est-ce que l'offre, le moyen que je veux déployer pour rencontrer le besoin, est-ce qu'il est assez désirable au marché selon le segment ou la clientèle que je veux servir? Donc, le côté désirabilité par rapport à l'offre. Et ça va nous amener, dans un dernier temps, dans une version un peu plus large, c'est quoi le modèle économique, c'est quoi le modèle techniquement qui va nous permettre de réaliser le tout, donc le modèle d'affaires qui va nous permettre de mettre ça en œuvre. Donc, il y a différents niveaux, il y a une progression. Et là, je ne veux pas ouvrir toute la discussion sur la notion de prototypage, la notion de validation, de test. On a eu des épisodes là-dessus, mais c'est ici le terrain de jeu de ces thématiques-là. Ce que je veux cependant ouvrir comme perspective, c'est qu'il y a un contexte stratégique à tout ça. C'est qu'évidemment, ça va nous permettre d'évaluer la robustesse de notre proposition de valeur par rapport à notre compétition, par rapport à comment qu'on répond à notre clientèle et comment notre compétition répond aussi aux besoins de nos clients. Est-ce que notre proposition de valeur est unique? Est-ce qu'on a défini dans notre proposition de valeur certains éléments sur lesquels on peut gagner, qu'on peut se démarquer par rapport à notre compétition? Et c'est là que je pense qu'on peut faire le lien avec le Blue Ocean Strategy et le Strategy Canva. Le Strategy Canvas qu'ils utilisent. Parce que c'est les différents facteurs de compétition qui sont utilisés par nos clients et comment que mon entreprise se positionne par rapport à son offre, par rapport à sa proposition de valeur et comment celle de mes concurrents ou des offres qui sont présentes dans le marché sont présentées. Et là, ça nous explique, quand on travaille cet outil-là, mais sur quoi je me démarque? Quels sont les pains, les gains ou les jobs to be done qui ne sont pas adressés? Est-ce que je peux modifier ma proposition de valeur pour aller chercher de la valeur de façon différente et que je peux aller chercher un positionnement dans le marché qui est gagnant? Donc, c'est toute la notion de Blue Ocean Strategy qu'ils apportent, mais il y a un lien très fort avec les jobs to be done quand on l'examine sous cet angle-là. Et là, dans un dernier temps, je vous dirais, c'est là qu'il faut réfléchir quand on parle de job to be done aussi en termes de customer journey ou du moins tout le cheminement du client dans le avant l'interaction, pendant l'interaction d'achat, post-achat et dans l'utilisation du produit ou du service à long terme. À travers ces différents moments d'interaction, il y a différentes jobs to be done qui existent. Et quand on map cette carte-là, ben, on est capable d'élaborer différentes stratégies opérationnelles. On est capable de réfléchir à différentes façons de créer de la valeur. Et ça ouvre la porte à énormément de potentiel de démarquer notre produit, notre service, mais démarquer aussi notre entreprise par rapport aux concurrents. Et c'est là que ça devient vraiment, à mon sens, un bijou en termes d'outils stratégiques qui prend forme dans des actions très, 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 très concrètes. Véronica?
En fait, je pense que ça ouvre la porte à créer une chaîne d'approvisionnement qui est aussi stratégique que le marketing dans une organisation. Si tout ce travail-là, si le démarchage des jobs to be done est fait conjointement entre le développement de produits, le développement de services et comment on peut le rendre et le livrer aux clients, je pense que ça va nous permettre de démystifier et de trouver des opportunités opérationnelles pour créer peut-être des nouvelles méthodes de livraison, que ce soit service ou produit, mais de créer des nouvelles méthodes de fabrication, de livraison, de reprise de produits. De plus en plus, on a des produits que les entreprises vont devoir récupérer une fois la vie utile de l'appareil terminée pour pouvoir les démonter, recycler les parties. Donc, je pense que l'intégration de toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement, des opérations avec l'équipe de marketing et de développement de produits ou de services au niveau des jobs to be done peut amener un avantage stratégique et concurrentiel très développé par rapport à une organisation qui fait juste le regarder comme marketing et développement de produits.
Puis, vois-tu, le propos que tu amènes m'amène à une réflexion. Je pense qu'on pourrait même faire un épisode où est-ce qu'on, comment articuler ça, justement, de l'élément de qu'est-ce qu'on veut desservir et comment qu'on l'articule à travers l'ensemble des opérations pour pouvoir créer, justement, cet avantage-là. Question que je veux dire, peut-être de façon très concrète, j'ai pu travailler avec certains clients et c'est de voir comment que toute l'organisation, dans le fond, toutes les sphères opérationnelles doivent jouer un rôle pour pouvoir livrer la valeur qu'on veut mettre en œuvre et comment que ça se matérialise pas seulement sur le point de transaction, mais à travers l'ensemble du cycle de vie.
Exact.
Et là, le cycle de vie peut, comme tu l'as dit tantôt, c'est jusqu'à la disposition du bien ou du service.
Oui.
Ben, le service peut-être un peu moins, non, mais peut-être du produit. Oui. Ben, il y a tout un cycle qui prend place dans lequel on peut créer cette valeur-là.
Oui, d'autant plus qu'on va voir de plus en plus de changements de cycle de vie. En fait, le cycle de vie va finir beaucoup plus loin que qu'est-ce qui finissait auparavant. Fait que je pense que toute cette approche-là nécessite aussi une évaluation des jobs to be done pour s'assurer qu'on va capter qu'est-ce que notre consommateur, qu'est-ce que notre client veut vraiment voir parce que son désir, que ce soit émotif ou fonctionnel, ne finit plus avec l'utilisation du produit, particulièrement un produit, sinon qu'il va continuer jusqu'à comment il est disposé à la fin pour sentir qu'il a fait le bon achat dans sa réflexion, il a considéré ces impacts-là dans son achat.
Et souvent, le client n'est même pas conscient de ce qu'il fait en lui, qui évoque ou qui fait se sentir bien par rapport à l'utilisation, l'achat, enfin, tout un ensemble de choses autour du produit ou du service. Donc, on est dans l'inconscient aussi. Donc, il n'y a pas juste l'irrationnel ou l'émotionnel, mais il y a aussi le fait que certaines choses sont inconscientes. Hein. Je parlais dans un podcast précédent de compétences inconscientes. Il faut faire attention à ça particulièrement et on a tendance à le sous-estimer.
J'aimerais conclure ce segment-là en vous posant quelques questions, ou du moins dans votre organisation, ça vous amène à poser quelques questions, je pense, qui sont importantes. D'abord, est-ce que votre offre de produits ou services est unique? Puis là, je pense que c'est important de comparer par rapport à la compétition, par rapport à comment vous desservez les jobs to be done, et est-ce qu'il existe différents jobs to be done qui ne sont pas adressés et dans lesquels il y a un potentiel à capturer, une opportunité à capturer. Donc, le corollaire de sa première question, c'est une deuxième, c'est est-ce qu'il existe des opportunités à capturer dans ce contexte-là? Dans une deuxième question, je proposerais de dire est-ce que la proposition de valeur, elle est complète? Est-ce que vous adressez bien les pains and gains? Est-ce que vous avez fait une bonne sélection par rapport à ça? Et encore une fois, est-ce qu'il existe d'autres opportunités à explorer par rapport à qu'est-ce que vous offrez à votre client, à votre clientèle? Donc, est-ce qu'il existe aussi un marché additionnel à capturer? Jean-François mentionnait que souvent, il y a certains secteurs qui sont peut-être pas conscients de leur jobs to be done ou de l'ensemble des jobs to be done. Mais moi, je dirais aussi peut-être, à cause des pains and gains, il y a peut-être des segments de clients qui ne sont pas desservis actuellement et qui pourraient le devenir si vous modifiez les pains and gains à cause, et donc vous enlevez les frustrations qui permettent de mettre en œuvre une solution pour satisfaire les jobs to be done. Et comme dernier point, dernière question, où est la menace concurrentielle? Comment vos principaux concurrents analysent leurs produits et services selon ces lunettes-là? Et vous pourriez aussi analyser leurs produits, leurs services, leurs offres, en fonction de ces lunettes pour découvrir est-ce qu'il existe des failles dans ce qu'ils offrent sur le marché que vous pourriez exploiter à votre avantage.
Oui, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, une notion de veille concurrentielle. Quand on parlait d'instruments pour une veille concurrentielle, bien, j'avais jamais pensé au value proposition comme ça pour faire un benchmark, mais ou une veille concurrentielle. Je trouve ça particulièrement intéressant. Bravo, j'ai découvert quelque chose.
Dans le deuxième segment, j'aimerais aborder quelques pièges à éviter ou du moins quelques points auxquels porter attention. Le premier, ça serait de chercher des preuves objectives, c'est-à-dire qu'il existe une différence entre ce que le client dit et ce que le client fait. Il faut faire attention aux biais de confirmation, ce qu'on cherche à entendre et ce que le client veut nous faire entendre, parce qu'il veut évidemment nous faire plaisir quand on parle à des des clients de façon directe, il faut comprendre quels sont les faits, quels sont les comportements. C'est un élément qui est vraiment, vraiment essentiel et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Dans un deuxième temps, mais il faut focaliser aussi sur les inconnus. Ce que je veux dire par là, c'est que sur les éléments sur lesquels on connaît déjà, qu'on a déjà une bonne dose de compréhension, c'est souvent pas là qu'on va aller chercher le meilleur retour sur investissement, sur notre énergie à aller comprendre les jobs to be done ou comprendre des éléments qui sont inexplorés. Faut comprendre, donc, mieux cerner qu'est-ce qu'on ne connaît pas et surtout les éléments sur lesquels on a de l'influence. Et ça, c'est critique dans notre démarche. Les éléments sur lesquels on n'a pas d'influence, c'est très, très, très difficile de vouloir développer des éléments de notre proposition de valeur parce que, à quelque part, on ne pourra pas nécessairement se distinguer ou on ne pourra pas nécessairement aller chercher de l'information importante. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est « What would have to be true? » Qu'est-ce qui doit être vrai par rapport à notre client? Qu'est-ce qui doit être vrai là-dedans? Il y a des barrières, il y a des éléments qui nous empêchent de satisfaire les jobs to be done. C'est ça qu'il faut aller explorer dans nos hypothèses, dans notre prototypage. On en a parlé à travers les différents épisodes. Troisième et dernier point que je veux aborder, c'est ne pas porter attention au potentiel stratégique des jobs to be done. On en a parlé depuis tantôt. Je pense qu'il faut ouvrir la réflexion pour en avoir une perspective beaucoup plus globale. Donc, il ne faut pas oublier que le potentiel de création de valeur associé à la réflexion est très, très, très clair. Ce n'est pas uniquement un outil pour les entreprises en démarrage, c'est aussi un outil qui est très important pour les organisations existantes. C'est un moyen de repenser la valeur créée et c'est un moyen de capturer des non-consommateurs, c'est un moyen de capturer une valeur différente et se distinguer et aller créer une valeur manifeste pour des nouveaux clients, je ne le dirai jamais assez.
Donc, moi, je vais me lancer par rapport à ça, au-delà de tout le bien que je pense de tout ça. C'est une belle façon aussi d'examiner certains cas dont on a parlé. On peut parler de Nokia, on peut parler, mais je pense surtout à Kodak par rapport à tout ça. De regarder un peu notre gamme de services. Moi, je pense, je suis un ex-Nortel et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait de si mal chez Nortel pour qu'on fasse faillite. Et en quelque part, il y a un petit peu de tout ça. On a sous-estimé ou mal compris les jobs to be done, les pains et les gains de nos clients à travers toute la diversité des produits qu'on offrait dans cette structure-là. Et je termine sur cette question-là parce qu'on parlera du Bitcoin avec une entrevue bientôt. Mais en réalité, je veux sortir du Bitcoin. On parlera surtout de blockchain. Mais pour ramener le cas du Bitcoin qui est un produit qui semble fonctionner, dont on entend parler énormément, qui est devenu presque un objet de spéculation. Hein. Il n'est pas rare de voir des journées où ça monte et ça descend de 20% dans la même journée, ou l'inverse, ça descend et ça remonte de 20% dans la même journée. Mais beaucoup d'économistes encore nous s'interrogent sur quel est le job to be done auquel les crypto-monnaies s'adressent. Il y a beaucoup d'autres exemples autour de la blockchain dont on pourra parler dans un autre épisode. Mais clairement, il y a des produits comme ça qui semblent défier ce dont on vient de parler. Bon, en même temps, Paul Krugman, dans un article récent dans le New York Times, nous dit bien que l'or aussi est un peu un produit dont le job to be done n'est pas très clair, mais ça n'empêche pas de prospérer depuis des centaines et des milliers d'années. Véronica?
En fait, moi, je voudrais ajouter peut-être trois éléments au piège à éviter. Le premier fait un peu référence ou écho à ce que tu disais tantôt, Eric, avec les preuves et les données objectives. Dans le Six Sigma, bien entendu, on travaille beaucoup les données concrètes, donc on parle beaucoup de statistiques, de représentation de la population. Je pense qu'on peut pas faire des analyses de la sorte sans avoir des bonnes données quantitatives et non seulement qualitatives. Donc, s'assurer d'avoir des bonnes données objectives, sans biais, comme tu as mentionné, ça va nous donner beaucoup d'informations qu'on peut ensuite jumeler avec du qualitatif, qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos analyses et dans le développement des idées potentielles. Le deuxième élément, on a parlé beaucoup des jobs to be done dans un contexte d'innovation. de segments de marché ou de nouveaux segments de marché. Mais je pense qu'on ne doit pas sous-estimer nos relations actuelles avec nos fournisseurs et avec nos clients.
Exact.
Et par l'entremise des business reviews ou des rencontres qu'on peut faire avec autant nos clients qu'avec nos fournisseurs, ça peut nous donner énormément d'informations sur des jobs to be done qui ne sont pas encore comblés, soit par nous ou par d'autres entreprises qui les desservent ou avec qui ils font affaire, mais aussi ça peut nous donner des indications de jobs to be done qui s'en viennent dans le futur ou desquels on commence à parler ou à explorer. Donc, je pense que ces rencontres-là, c'est des mines d'or d'informations qu'on a tendance à sous-estimer ou un peu ou à sous-utiliser. Et donc, je pense que c'est déjà dans plusieurs entreprises, ça fait déjà partie de nos pratiques d'avoir ces rencontres-là régulièrement. Je pense qu'il faut juste intégrer ces questions-là et avoir cette ouverture d'esprit, mais aussi, comme tu as mentionné tantôt, d'être capable de capter ces informations-là pour les garder au sein de l'entreprise. Et finalement, quand on capte beaucoup d'informations avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de capter des informations et des données, je pense que c'est facile de se sentir un peu mêlé parce que on a de l'information qui nous parle qui nous provient de partout, mais qui nous parle de différentes choses en même temps. Et je pense que de ramener ces informations-là à notre propre stratégie, à nos éléments critiques qui font en sorte que nous comme organisation, on est ABC. Donc, quels sont nos éléments critiques? Quelle est notre stratégie sur laquelle on veut développer, sur laquelle on veut travailler? D'associer, en fait, toutes les nouvelles informations qu'on va capter à cette stratégie-là va nous aider de garder notre ligne directrice sur la bonne voie. Donc, de pas sous-estimer non plus la capacité d'avoir beaucoup d'informations, mais d'être tellement mêlé qu'on ne sait plus où ce qu'on s'en va. Fait que la stratégie demeure encore un point super important avec lequel s'aligner.
Puis en terminant, je soulignerai le point que tu as mentionné. Je pense que c'est important de bien voir que la notion de « jobs to be done » ne s'applique pas seulement dans du B2C, ça s'applique très bien dans du B2B et ça s'applique très bien au niveau de la chaîne d'approvisionnement, dans les liens et relations qui existent entre les différents partenaires aussi. Donc, c'est un des éléments d'observation qui sont très, très, très importants.
Absolument, oui.
En guise de conclusion, j'aimerais rappeler certains des éléments clés discutés aujourd'hui. Quand on parle de jobs to be done, bien, évidemment, on focalise sur les actions, les tâches à accomplir pour résoudre un problème. Donc, on a une unité d'analyse, ou du moins, on focalise sur la notion de problème, la notion de besoin et d'action. C'est important de comprendre que tous nos clients et nos prospects essaient d'accomplir quelque chose. Je pense qu'il faut aller vraiment bien documenter ces éléments-là, documenter les pains and gains qui existent aussi, parce que c'est une source de valeur qui peut prendre différentes formes et ça va nous permettre de développer une proposition de valeur ou des produits ou des services qui vont permettre de créer un impact majeur sur la stratégie, qui va nous permettre vraiment de se différencier et ça va nous permettre de bâtir un modèle d'affaires qui va être plus en mesure de nous protéger de la compétition et de créer un avantage concurrentiel à long terme. Jean-François, Véronica, quelques mots pour compléter?
Oui, moi je veux me lancer dans cette notion-là, comme tu as dit, je pense que tu as trouvé le bon mot, empathie. Avec notre client ou notre, entre guillemets, faut que notre fournisseur entre en empathie avec nous, en quelque part aussi. J'ai eu beaucoup de difficultés à passer certains messages à plusieurs de mes fournisseurs dans une vie passée. Donc, cette entrée en empathie nous permet de rentrer aussi dans le domaine moins rationnel de la prise de décision et de l'analyse et de l'évaluation des marchés potentiels et des opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, c'est très important. Véronica?
Ben moi, je reviens un peu sur l'élément que je viens de mentionner. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. On a des partenaires avec qui on fait affaire, nos fournisseurs, nos clients existants, qui peuvent être une source d'idéation très importante pour nous, autant pour développer nos produits et services existants que pour comprendre qu'est-ce que le marché est en train de développer comme besoin ou comme jobs to be done. Donc, de ne pas sous-estimer la source d'information que nos fournisseurs et nos partenaires et nos clients actuels peuvent devenir pour nous, pour nous aider à développer ce qui s'en vient.
Alors, je vous remercie tous les deux. Nous vous invitons à consulter les notes de l'épisode en visitant, bien évidemment, le site d'IntelliaConsulting.com, épisode 26, et évidemment, vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. D'ici notre prochain rendez-vous, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine Jean-François, Véronica.
Bonne semaine Véronica, bonne semaine Eric.
Merci, bonne semaine à vous deux et restez en santé.
Oui. Allez, bonne semaine, à bientôt.
Bye.